en cette attente de l'Avent qui passe très vite en réalité, on en convient des uns et des autres, eh bien, Saint Jacques, lui, nous dit d'attendre avec persévérance, avec intensité, mais paisiblement. Mais c'est difficile pour nous d'équilibrer les deux formes d'attente. On attend à la fois l'avenue du Seigneur parmi nous, l'avenue du royaume des cieux, l'organisation du monde autour de sa vérité et de son amour. Un monde dont on rêve et dont Isaïe nous fait rêver lorsqu'il se projette vers la fin des temps et nous projette avec lui. Et puis en même temps, ce que nous attendons, c'est le Sauveur qui vient au milieu de nous, l'Emmanuel. Et celui-là est un signe beaucoup plus discret que l'établissement de son royaume. Mais ce petit enfant de Noël grandit et nous attendons alors le grand prédicateur qui viendra changer les cœurs. Mais tout cela se fait à la vitesse, non pas seulement de Dieu, mais à la vitesse des hommes. Et ça se fait quand même à notre insu, d'une façon générale. Nous participons, et c'est nécessaire, mais nous ne savons pas exactement comment nos petits efforts s'imbriquent dans la grande planification de Dieu. Les grands signes, voyez tous ces miracles-là, la question de Jean, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Les miracles, c'est la réponse. Déjà Isaïe les avait mentionnés, Jésus leur dit, ces miracles adviennent au milieu de vous. Ce que tous ces miracles, c'est ce que nous attendons de Dieu, chacun d'entre nous. Oui, que nos yeux s'ouvrent, que nos oreilles s'ouvrent aussi à la vérité, que notre marche morale ne cesse de boiter, que nous puissions marcher droit dans une liberté souveraine, que rien ne nous arrête, qu'aucune peur ne vienne nous handicaper et nous faire boiter précisément. Et puis il y a la vie, vivre de tout cela, vivre au sens le plus fort du terme, alors que nous avons toujours l'impression, au contraire, de survivre parce que nous sommes au milieu du combat. Oui, tous ces miracles évoquent cela, mais ils sont pour nous des soutiens lorsqu'ils nous arrivent, parce qu'ils nous arrivent sous forme de grâce, mais ils n'ont pas encore changé le monde, et ça nous le savons. Donc ce sont des signes qui nous montrent une direction, et ces signes-là sont importants. Le monde est incapable de les contrefaire. Le monde ne peut pas ouvrir mes yeux d'un seul coup à la vérité. Lorsque je suis aveugle, je n'ai que deux options. Ou bien je me contente de mon aveuglement et j'y pense pas. Ou bien je déprime, je me tape la tête contre les murs et les coins de placard. Devons-nous en attendre un autre? À quoi rime cette question de Jean le Baptiste? Il n'avait pas eu de doute au moment du baptême de Jésus, puisqu'il avait eu les signes qui l'accompagnaient, la colombe qui demeurait au-dessus de Jésus. Mais il y a toujours cette tentation pour nous d'essayer de dépasser le Christ à tous les niveaux, sa morale, sa mystique pour entrer dans le royaume des cieux et sa toute puissance pour nous transformer, pour être transformé. Est-ce qu'il n'y a pas un dépassement possible? Est-ce qu'il n'y a pas un Mahomet ou un autre prophète qui viendra nous donner plus que ce que Jésus nous a donné? La promesse du Christ est son ultime, voilà ce que ça veut dire. Jésus répond d'une façon très claire à ce niveau-là, même s'il renvoie aux miracles, mais les miracles sont très clairs. Nous ne pouvons pas obtenir au-delà de ce que cette espérance nous fait luire à nos yeux, ces miracles-là précisément. Personne ne peut faire mieux que le Christ. Et ça, on doit vraiment s'en convaincre. Parfois, on est tenté d'aller ailleurs, non pas de de renier franchement Jésus, mais d'être fasciné par l'idée que la technologie, par exemple, pourra nous permettre eh bien, de dépasser notre condition humaine, et non plus aux conditions de Dieu qui passent par la mort, mais à d'autres conditions peut-être. Par Noël, le grand message de Dieu, du Père et de l'Esprit Saint, et bien sûr de Jésus lui-même, c'est que Dieu veut cette proximité avec nous, une proximité inimaginable. Il devient l'un d'entre nous, mais pas seulement il y a 2000 ans. Par cette naissance sur la terre, il y a 2000 ans, Jésus devient l'ami intérieur de chacun d'entre nous. C'est ce qu'il nous propose. Il veut de nous la même attention amoureuse que la Vierge Marie ou Joseph, accueillant l'enfant en ce monde. Il sait que nos moyens ne sont pas plus grands que ceux de la Sainte Famille. Ils étaient sur la route, ils se sont contentés d'une grange. Et Jésus sait bien que nos âmes ne sont pas des palais. C'est ce qu'il me dit d'ailleurs à propos de Jean-Baptiste. Vous n'êtes pas venu aller voir au désert des gens qui vivent dans les palais, qui ont des vêtements somptueux. Non, vous êtes allé au désert. Et là, il n'y a pas de vêtements somptueux. Nos âmes seront somptueuses au ciel. Mais Dieu veut être notre ami. Et c'est intérieurement qu'il est là, que nous pouvons communiquer avec lui, que nous pouvons le rejoindre. L'extérieur, c'est le monde qui règne. À l'extériorité, ça c'est entre les mains du monde malheureusement, mais l'intériorité, Dieu veut se l'approprier. Et c'est par cette intériorité, nos cœurs, que Dieu nous sauve. Il veut naître dans nos cœurs comme il est né il y a 2000 ans, eh bien dans la grange, oui, dans la... Les bergers, les mages, tout cela sont des signes qui nous appellent. Jésus nous donne un avertissement. C'est à la fin de la liste des miracles, heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. On peut se demander pourquoi il ajoute ça. Mais il ajoute ça parce que précisément il est indépassable. Parce qu'il est l'autorité ultime qui exprime la volonté de Dieu. Et si on refuse, eh bien cette volonté, si on refuse le témoignage de sa toute-puissance, eh bien, on ne trouve plus rien, on est laissé seul à nous-mêmes. Il y a quelque chose d'irréversible à partir de ce moment-là. Refuser la miséricorde divine, eh bien c'est une irréversibilité qui nous plonge dans l'indépassable au niveau du salut. On ne peut plus acquérir le salut si on rejette la miséricorde, à savoir cette proximité de l'enfant de la crèche. Et ça, c'est l'avertissement de Jésus. Heureux celui pour qui je ne serai pas une cause de chute, pour qui la vérité et l'amour ne seront pas des pièges. Il insiste aussi Jésus sur le mystère de Jean, en tant que dernier des prophètes. Les prophètes voyaient Jésus de loin, le Messie de loin. Jean-Baptiste, lui, l'a désigné aux hommes de son temps. Jésus assume vraiment totalement l'Ancien Testament dans sa vocation messianique. Tout l'Ancien Testament, toute l'attente de l'Ancien Testament, et c'est pourquoi Jacques nous dit, bien soyez paisibles, les hommes ont attendu plusieurs millénaires avant de voir ce que vous voyez et d'entendre ce que vous entendez. Soyez sages, soyez humbles devant Dieu, attendez l'heure de Dieu pour vous. Mais c'est complètement toutes ces attentes de bonheur, ces attentes de réalisation, dans le pays de la soif, nous dit Isaïe, eh bien... Être étanché, avoir un cœur enfin étanché, c'est une intelligence rassasiée. avoir des, on en rêve, des relations amicales, au sens fort du terme, de l'ami, avec les uns et les autres, de ceux qui nous entourent, qu'il n'y ait plus de conflit. Isaïe nous fait rêver à tout cela. Eh bien, le Messie, Jésus-Christ, lui, peut réaliser toutes ces choses. Il les réalise en ce monde dans le combat. C'est ce qui nous heurte. Nous voudrions tout de suite son beau royaume de perfection. Mais Jésus nous dit non, vous devez le mériter. Et ça aussi, ça nous heurte. Parce que notre nature tend, comme le peuple est élu, hébreu, au désert, le peuple saint, comme il se nommait, eh bien, nous voudrions, par simple appartenance à ce peuple saint, eh bien, avoir droit à tout. Mais Jésus veut que ce soit par le don de notre cœur que nous y participions. On a une petite vie terrestre très courte, de temps en temps, parce qu'on s'ennuie, on traîne un peu des pieds, on se dit que c'est un peu long tout ça. Mais c'est pas long du tout, une petite vie terrestre au regard de l'éternité. C'est au milieu de cette petite vie terrestre que Jésus est né, pour anticiper le royaume. Donnons de l'importance à cette première venue du Christ, en notre monde et en chacun d'entre nous. Mettons vraiment en relief ce que signifie l'incarnation du Verbe.